Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC. Il est déjà 7h.
RMC, Apolline Matin.
L'heure de retrouver Thibaut Texier pour un nouveau journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce le début d'un scandale? L'affaire des laits infantiles contaminés, une bactérie au cœur de deux enquêtes ouvertes après la mort suspecte de deux nourrissons. La cacophonie Betaram au cœur du scandale. L'établissement va-t-il fermer ses portes? Les instances de l'établissement de Pau-des-Mantes. Et une enquête ouverte après qu'un navire de la flotte fantôme russe a été arraisonné par la marine française hier en Méditerranée.
Deux enquêtes ouvertes dans l'affaire des laits contaminés, des laits infantiles contaminés.
Et cela fait suite à la mort de deux nourrissons à Bordeaux et à Angers. Ils ont consommé un produit de la marque Gigos, objet d'un rappel chez Nestlé, possiblement contaminé à cette substance d'origine bactérienne produite par l'huile d'une entreprise chinoise. Deux décès et de nombreuses questions en suspens. On fait le point ce matin avec Amélie Courtet.
Prenons le premier cas de décès suspect. À Angers, une petite fille de 27 jours est décédée au domicile de ses parents le 23 décembre dernier. La mère est venue apporter hier aux autorités la boîte de lait qu'elle avait utilisée pour nourrir son enfant. À Bordeaux, c'est un nourrisson de 14 jours qui est mort le 8 janvier au CHU, où sa mère s'était rendue en urgence, inquiète des troubles digestifs sévères de son bébé. Dans les deux cas, les nourrissons avaient consommé du lait infantile de la marque Gigos, marque dont les lots ont fait l'objet d'un rappel en raison d'une contamination à une toxine, la céréulide. Des analyses ont donc été menées en urgence à Angers, tout comme à Bordeaux, où les premiers résultats ne permettent pas d'établir de lien entre le décès et la consommation de ce lait. Les ministères de l'Agriculture et de la Santé disent rester pleinement mobilisés face à une alerte sanitaire d'ampleur et évolutive.
Là, je pense à l'angoisse des jeunes parents ce matin qui nous écoutent. Vous consommez ces laits Gigos, ces laits Lactalis. Vous n'hésitez pas à témoigner au 32-16 ce matin. On sera avec l'ONG Foodwatch à 7h40 qui saisit la justice. L'institution de Betaram va-t-elle fermer ses portes?
Établissement catholique au cœur d'un vaste scandale. Depuis deux ans, près de 250 plaintes ont été déposées pour violences et agressions sexuelles par d'anciens élèves, des faits couvrant une large période des années 50 au début des années 2000. Et se pose désormais la question de l'avenir du site. On a entendu tout et son contraire hier, Romain Hougue.
Oui, tout part hier d'une déclaration de l'organisme qui chapeaute le fonctionnement des établissements catholiques. Selon son président Pierre-Vincent Guéret, le mot « Betaram » doit être envoyé aux oubliettes de l'histoire, dit-il, avant d'annoncer la fermeture de l'établissement avant l'été. Association de victimes et les rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire née du scandale s'en félicitent. Sauf que voilà, quelques heures plus tard, il est contredit par le secrétaire général de l'enseignement catholique. Il a parlé trop vite, lance-t-il. La décision n'est pas encore actée. Une querelle de chef déplore quant à lui Alain Esquer, ancien élève à l'origine de la révélation du scandale. Selon lui, les parents auraient déjà été prévenus de la fermeture de l'enseignement catholique. L'établissement serait dans une situation financière catastrophique. Or, sans financement, Betaram risque bien de devoir fermer ses portes. La décision finale reviendra bien à l'OGEC, la structure qui a annoncé en premier la fermeture de l'établissement.
Il est 7h03, on en vient à ce pétrolier en provenance de Russie, arraisonné par la marine française hier en Méditerranée sous sanction internationale. Il a été dérouté vers un point de mouillage sous escorte, annonce d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État se dit déterminé à garantir l'efficacité des sanctions puisque ce bateau, Clara Gabillet, est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme de Moscou.
Oui, c'est entre l'Espagne et le Maroc que la marine française a arraisonné ce cargo pétrolier long de 250 mètres pour vérifier sa nationalité, soupçonné de naviguer sous faux pavillon. Des doutes confirmés après examen des documents. Aujourd'hui, ce navire opère officiellement sous la bannière des Comores, mais depuis 2022, il a changé au moins trois fois de pavillon et surtout, il s'appelle aujourd'hui le Grinch, mais il était jusqu'en avril dernier le Karl, un nom sur la liste des navires sanctionnés par l'Union européenne et par les États-Unis, ce qui n'étonne pas Hervé Baudu, membre de l'Académie de Marine.
Pour essayer de perdre un petit peu le tracé du navire, il change de pavillon. Des pays qui ne sont pas trop regardants sur la réglementation. Et là, ce navire a été connu. Il venait de Mourmansk, qui est un hub de chargement de pétrole. Et donc, le pétrole russe est sanctionné. La France a décidé d'intervenir.
Et donc, d'intercepter ce cargo qui se dirigeait vers l'Est, probablement vers la Turquie ou l'Inde, des pays soupçonnés d'acheter du pétrole russe sous sanction.
La Russie qui sera aux Émirats Arabes Unis ce vendredi, réunion tripartite avec l'Ukraine et les États-Unis portant sur des questions de sécurité, alors que Volodymyr Zelensky dit avoir conclu un accord avec Donald Trump hier sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le président américain et sa décision de ne finalement pas imposer de surtaxe douanière saluée par l'Union européenne. Réunis hier soir à Bruxelles, les 27 se disent tout de même vigilants. Ils affichent leur volonté à défendre les intérêts de l'Europe contre toute forme de coercition.
Il est 7h05 sur RMC et cet avis de tempête dans l'Ouest.
La dépression Ingrid débarque avec ses fortes rafales de vent, la pluie aussi en quantité importante attendue dans l'Ouest du pays. Trois départements bretons sont toujours en vigilance aux crues ce matin. Plusieurs routes sont fermées à la circulation où l'eau est montée par endroits dans la région, provoquant d'importants dégâts matériels. C'est le cas du côté de Quimperlé. Cassandre Brault.
Raclette à la main et bottes aux pieds, Mao pénètre difficilement dans le couloir de l'immeuble de sa grand-mère.
C'est monté jusque ici, ça, on voit très bien la marque, à peu près 1m50.
9 ans que sa grand-mère est installée ici.
C'est la première fois qu'on voit ça.
Dans son restaurant, Valérie constate les dégâts.
En cuisine, les frigos, congélateurs.
Et la liste s'allonge au fur et à mesure.
Les radiateurs, le parquet, on n'a pas encore fait le tour de tous les dégâts.
La gorge serrée, cette gérante se sent complètement démunie.
Il y a tout qui s'arrête, on a tout perdu.
Et avec les nouvelles précipitations, la décrue s'annonce très lente, selon Michael Kernez, le maire de Quimperlé.
C'est une cuvette. Et on est en bas d'un bassin versant qui est très très important. Quand il pleut dans les Côtes d'Armor, quand il pleut en proximité, l'eau descend jusqu'à Quimperlé.
Des moyens restent donc mobilisés ce matin dans la commune.
On reste extrêmement prudent et donc on a maintenu le dispositif interdiction de circuler, vigilance absolue et soutien à la population.
Le maire espère que les 14 habitants évacués pourront retrouver leur logement dans le week-end.
C'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu va affronter, a priori, esquiver les deux motions de censure RN et LFI déposées après le passage en force du Premier ministre via le 49.3 sur la partie recette du budget.
Et ce matin, l'Olympique Lyonnais est toujours en tête de la Ligue Europa.
Et assuré, en plus d'une qualification en huitième de finale après sa victoire 1-0 sur la pelouse des Suisses du Young Boys Berne. Ça se complique à l'inverse pour Lille, battu 2-1 par le Celta Vigo, des nordistes 21e au classement, à qui rien ne réussit en ce moment. Et cela commence à agacer Jean Baumel.
Oui, cette quatrième défaite de suite en étant à 11 contre 10 pendant plus d'une heure ne passe pas chez certains joueurs comme le défenseur Romain Perrault.
C'est compliqué d'entamer un match de cette façon. Ce qui m'énerve le plus, c'est la suite. C'est ce qui s'est passé derrière. À 10 contre 11, on n'a pas été suffisamment déterminé, suffisamment juste pour aller chercher un résultat. Donc ce soir, beaucoup d'énervement, c'est tout. Il faut vite inverser la tendance.
En conférence de presse, l'entraîneur lillois Bruno Genesio était dans une colère froide et énigmatique suite aux erreurs répétées de ses joueurs.
Tout le monde va devoir assumer. Moi, je vais assumer le premier, puisque c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui fais l'équipe. Donc forcément, le premier responsable, c'est moi. Et je vais assumer mes responsabilités. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. Mais les miennes, je vais les prendre.
Et ça ne veut pas dire démissionner.
Vous verrez, je vous le dis, je vous verrai dans les jours qui viennent.
Dimanche soir, face à Strasbourg, le LOSC devra montrer autre chose au stade Pierre-Mauroy pour ne pas tomber dans une crise profonde.
Et on retiendra aussi de cette soirée la première victoire de Nice, vainqueur des Néerlandais, des Go Ahead Eagles, la fin d'une série de 18 matchs sans victoire en Coupe d'Europe pour les Aiglons. Et puis il n'y a plus de Français ce matin à l'Open d'Australie. Corentin Moutet a été balayé en 3-7 cette nuit par le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal sur RMC. Il est 7h08, on va filer au 32-16 et on avait ces chiffres de l'Inserm sur la cocaïne. Un Français sur 10 a consommé au moins une fois de la cocaïne. Ce qui est préoccupant, c'est que c'est 5 fois plus qu'il y a 20 ans. Elle s'est clairement banalisée. Corentin témoigne ce matin en direct au 32-16 depuis la Loire-Atlantique. Corentin, bonjour. Je me permets, est-ce qu'on peut dire ancien cocaïnomane ?
Oui, on peut, ouais.
C'est ça ? Vous avez été gros consommateur ?
Gros consommateur, ouais. Je consommais à peu près 3 grammes par week-end pendant 5 ans.
Je me rends même pas compte, mais ça a l'air beaucoup comme ça. Et c'était quoi ? Le week-end, vous dites, c'était... récréatif, ludique.
Rêve party, festif. Okay. Hein. C'était festif et puis un peu pour oublier un peu tous les problèmes de la semaine, tout ça. Et puis même pour tout ce qui est douleur. Tout ce qui est douleur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de douleur. Et puis
vous dites j'ai tout arrêté par rapport aux problèmes de santé, c'est-à-dire Corentin.
Eh ben en fait la dernière fois que j'en ai pris, j'avais changé de fournisseur, donc c'était plus le même. Et je suis tombé sur une cocaïne qui était 99% pure. Donc j'ai fait une crise de tachycardie, pardon.
Et vous avez fait peur?
Ah ouais, je me suis fait peur. J'ai l'impression que mon cœur il allait sortir de ma poitrine.
Mais vous constatez, Corentin, par contre, que par rapport à une autre époque, je vois que vous avez 28 ans, vous êtes jeune. C'est un produit assez banal aujourd'hui.
C'est banal maintenant. C'est tout le monde consomme ça et Après, je pense que c'est la drogue qui est peut-être la plus intéressante pour les jeunes, parce que du coup, c'est ce qui va te mettre un coup de boost et qui va pas t'endormir, quoi.
Ouais, on va faire attention avec le mot intéressant, hein, vous l'avez bien rappelé, c'est toxique. Mais j'ai bien compris, Corentin, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, Corentin. C'était juste pour le préciser à l'antenne. Oui. On parle, et vous l'avez bien dit, on parle d'un produit dangereux. C'est la première fois que vous nous appelez, Corentin.
Oui.
Ben, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel et de témoigner au 32-16 en direct ce matin sur RMC. On en parle, un Français sur 10 a déjà consommé au moins une fois de la cocaïne. C'est colossal et surtout, elle est banalisée. On l'entendait, vous continuez à témoigner si vous le souhaitez au 32-16. Ce matin à 7h10, le parti pris, c'est un appel à l'aide sur RMC. L'appel à l'aide d'une maman. Bonjour Charlotte Presta.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes la maman d'Héloïse. Héloïse a 9 ans, elle est atteinte d'une maladie génétique qui la handicape lourdement. Ça fait 18 mois que vous attendez la validation de son dossier par l'administration, par la MDPH, la Maison départementale du handicap. Vous dénoncez les lourdeurs administratives qui tuent les aidants. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Belliard.
Il est 7h14 sur RMC, RMC Story. Les lourdeurs administratives tuent les aidants. C'est votre parti pris ce matin, Charlotte Presta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maman d'Héloïse. Héloïse a 9 ans, elle est atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie génétique rare qui lui cause un handicap très lourd. Et vous avez posté, on l'a vu, un appel à l'aide sur Facebook, je cite, un appel aux médias, appel à l'État, appel à l'humanité. Et on a choisi de répondre à cet appel d'abord d'un mot. Est-ce que vous voulez bien nous parler d'Héloïse ? Elle a 9 ans, on le disait, elle est atteinte de cette maladie rare et handicapante. Qu'est-ce que ça implique chez vous au quotidien et comme besoin d'accompagnement ?
Alors merci déjà de me recevoir. Alors Héloïse, effectivement, elle a un syndrome d'Angelman, c'est une maladie génétique rare qui touche à la fois la sphère physique et la sphère cognitive. Donc ça veut dire quoi au quotidien ? Donc Héloïse ne marche pas, elle ne parle pas, elle a besoin d'aide sur tous les gestes de la vie courante. Et elle a souvent malheureusement des crises d'épilepsie, manque de sommeil. Donc ça affecte vraiment tous les sphères, je dirais, du quotidien.
Et on imagine très bien que ça remplit déjà très bien le quotidien d'une maman, mais ce qui vous accable aujourd'hui, c'est les lourdeurs administratives qui tuent les aidants, dites-vous. Votre vie, c'est vous occuper d'Héloïse, bien sûr, mais aussi remplir des kilos de paperasse.
Des kilos de paperasse, c'est le mot. Donc quand vous avez une enfant comme Héloïse, et malheureusement, j'aimerais vous dire que ça touche que Héloïse, mais ça touche énormément d'aidants. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'aidants qui sont touchés par des maladies génétiques rares. Donc quand vous êtes aidant d'une personne en situation comme Héloïse, vous devez remplir des tonnes de dossiers, à commencer, vous l'avez cité, par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, pour justifier, demander des droits, et ça fait des dossiers qui font environ 100 pages.
Alors, je vous coupe, parce que justifier, demander des droits, on pourrait dire c'est normal, c'est de l'argent public, mais quand on est sur une maladie, une pathologie incurable, ce qui est bizarre, c'est de devoir le refaire tous les 2 ans.
Alors c'est effectivement bizarre de redemander, de rejustifier. J'aime pas dire ça, mais en fait malheureusement ma fille, en fait son gène il va pas repousser pendant la nuit. Donc en fait de devoir rejustifier constamment, c'est effectivement partie de l'épuisement des aidants.
Et puis on va vous demander aussi de bien vous adresser au bon guichet, de respecter tous les délais. Quand en face l'administration, elle, eh bien, elle peut prendre son temps parfois. Le bon guichet pour vous, c'est la MDPH du 92, la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Et là-bas, votre dossier est bloqué depuis juillet 2024. Vous avez bien entendu, c'est pas juste pénible. Hein. C'est des droits en moins, des aides qui s'arrêtent. Ça fait 18 mois que vous attendez. Hein.
Ça fait donc 18 mois qu'on attend. Donc la MDPH, normalement, est tenue de répondre au bout de 4 mois. Et donc ça fait effectivement ces 18 mois qu'on attend, avec des droits qui sont expirés en août dernier. Par exemple, les droits qui sont expirés, c'est ce qu'on appelle les maisons de répit. Donc quand on a une enfant en situation de handicap comme Héloïse, j'ai 2 autres enfants. Donc il faut aussi que je m'occupe d'eux, il faut aussi que je m'occupe de moi, de mon mari. Et du coup, on fait souvent appel à ce qu'on appelle une maison de répit pour souffler le temps d'un week-end. Moi, j'ai plus ces droits-là. Donc ça fait depuis août dernier qu'on peut plus avoir cette solution pour simplement souffler.
Et puis parce qu'en plus, sans rentrer dans le détail, mais Héloïse, c'est des besoins de soins, de kiné, de fauteuil roulant, c'est beaucoup de frais à engager aussi.
C'est beaucoup de frais, et donc tous ces frais, ça fait même depuis plus que juillet 2024, parce que ça fait juillet 2024, c'est quand j'ai rempli le dossier, donc tous les frais qui sont issus depuis, je dirais peut-être même juillet 2023, c'est des frais qu'on a dû engager nous, à titre privé. La poussette adaptée qu'on vient de lui acheter, ça coûte 5 000 euros.
Et vous les avez avancés ? Et je vais les engager vous-même. C'est une violence administrative, ce qu'on est en train de décrire. Vous travaillez aussi, hein, je le rappelle. Vous avez parlé de vos deux autres enfants, d'une vie qu'il faut continuer aussi. Mais ce que vous demandez, c'est pas un passe-droit. Vous avez des solutions, vous avez des idées que vous vouliez mettre en avant ce matin. Allez-y.
Alors, la première idée, c'est un dossier unique. C'est-à-dire que non seulement il faut que je fasse ce dossier auprès de la MDPH, mais malheureusement, je dois le faire le même, mais en, un peu différent, sinon ça serait trop simple, à la Sécurité sociale, à la CAF, à la mairie, au département. À chaque fois que je demande un institut spécialisé, pour chaque institut spécialisé, c'est un dossier différent. Pour chaque maison de répit, c'est un dossier différent. Donc déjà, tous ces gens-là, ils dépendent de l'État. C'était cette publique, vous l'avez dit. Donc si déjà je pouvais avoir accès à un seul dossier unique, le même, tout le temps pareil,
et qui se... simplifier énormément le quotidien. Centraliser les maisons départementales du handicap, vous souhaitez que ce soit au niveau national et plus selon la disponibilité, la possibilité de chaque département.
Oui, ça serait idéal.
Merci beaucoup, Charlotte Presta. Merci d'être venue expliquer votre cas, votre témoignage, parce que je suis sûr aussi qu'il résonne auprès de nombreuses familles, de ceux qui nous écoutent ce matin et qui ont affaire à ces dossiers, à ces questions-là. Merci beaucoup. Vous êtes la maman d'Héloïse, 9 ans, je le rappelle, atteinte du syndrome d'Angelman. Merci d'être venue témoigner sur RMC en direct aujourd'hui. Il est 7h19 sur RMC. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Le monde entier parle des lunettes de soleil d'Emmanuel Macron que le président porte pour cacher un petit souci à l'œil. Les lunettes et les présidents, une longue histoire Arthur.
Eh oui, Charles de Gaulle refusait de porter ses lunettes en public. François Hollande assumait celle d'un président normal. Les lunettes des présidents, c'est pas que du style, c'est du pouvoir, Mathieu.
Et puis Arnaud Demange qui pirate le face-à-face ce matin. Laurent Neumann reçoit Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 60 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, on est avec Arthur Chevalier, l'historien du matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'image de la semaine, Emmanuel Macron qui portait ses fameuses lunettes de soleil en raison d'un souci de santé à l'œil, une hémorragie sous-conjonctivale, nous dit-on. Je répète ça comme si je savais ce que ça veut dire. Des lunettes qu'il a portées de Davos à Bruxelles. Le journal anglais, le Telegraph, se demande même si les lunettes de soleil de Macron peuvent sauver l'Occident. Rien que ça. On sait d'où viennent ces fameuses lunettes, Arthur.
Eh oui, elles viennent du Jura, Mathieu. Elles ont été fabriquées par la maison Henri Julien, une entreprise basée à Lons-le-Saunier. Depuis 2000, la maison Julien a été rachetée par des Italiens, mais une partie de sa production reste en France. Je précise qu'à l'origine, la maison Julien voulait faire cadeau de ses lunettes au président de la République qui a refusé et qui les a payées.
Mais alors pourquoi ça fait autant parler, Arthur ?
Eh bien, parce que pour les présidents, porter des lunettes de vue ou de soleil, ça a toujours été un gros sujet et ça s'explique puisque ça concerne leur image. Hein, et ça a commencé très tôt quand De Gaulle était président. Il détestait porter ses lunettes de vue en public. Et quand on voit les photos, on comprend. Hein. Ses lunettes, c'était des énormes culs de bouteille, très loin d'être glamour. Hein. Le problème, c'est que De Gaulle était hypermétrope, en fait, complètement bigleux. Et comme il ne pouvait pas lire ses discours avec ses lunettes, eh bien, figurez-vous qu'il les apprenait par cœur.
Ah ouais. Et qui est le premier président à avoir assumé de porter des lunettes ?
Alors, disons que le premier à en avoir fait un vrai look, hein, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il portait un modèle très chic, en écaille, très stylisé. D'ailleurs, pendant le débat télévisé pour la présidentielle de 1980 contre François Mitterrand, Giscard d'Estaing les porte, ses lunettes. Et son fabricant de lunettes, c'était pas n'importe qui, c'était Pierre Marly. Ça ne vous dit rien, mais c'était l'opticien des stars. Il fournissait Serge Gainsbourg, Michel Polnareff et même Jackie Kennedy.
Et François Mitterrand, après, il en portait pas, lui ?
Alors si, mais comme De Gaulle, il détestait ça. Il détestait les porter en public. Donc quand il devient président, il ne les porte plus quand il passe à la télévision. Alors comment faisait-il pour lire ses notes ? Eh bien, Mitterrand a trouvé la parade. Il portait des lentilles. C'est notre premier président à avoir porté des lentilles de contact.
Précurseur dans la lentille de contact. On se souvient quand même beaucoup de Nicolas Sarkozy avec ses Ray-Ban.
Eh ben oui, des Ray-Ban Aviator, hein, comme celle de Tom Cruise dans Top Gun. Il les portait dès la campagne présidentielle de 2007. Ça va devenir naturellement un symbole de sa présidence décontractée, très bling-bling. François Hollande n'échappera pas non plus à la malédiction. À partir de 2014, il porte des lunettes de vue rectangulaires avec des montures noires, un modèle sobre, à l'image d'un président normal qui voulait incarner ça. Sauf qu'un modèle sobre, mais un modèle, hélas, danois, puisque c'était fabriqué par une marque danoise, la marque Lindbergh. Pour un président français, porter des lunettes étrangères, ça n'avait pas beaucoup plu. Donc vous voyez, Macron n'est pas le premier et au moins ses lunettes sont françaises.
Mais surtout qu'on fabrique des lunettes en France, et particulièrement dans ces régions-là, le Jura notamment.
Absolument, tout ça. Grande région d'artisanat.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin.
Mathieu.
7h24.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Ah, il est là, bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, Laurent Neumann reçoit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Et ouais. Jean-Noël Barrot, notre ministre à nous, bande de gros nazes de l'étranger. Que les Américains appellent John Christmas Big Dick. Depuis que la diplomatie française montre les crocs emmenés par Emmanuel Macron et ses lunettes de biker dont parlait Arthur Chevalier. C'est Jean-Noël Barrot d'acier, les Allemands le surnomment. Johannes Vanachen, grosse pénis. Les Italiens Giovanni Natale Grande Pene. Et les Espagnols Juan Navidad Grande Sexo. Vous avez vu, hein? On a eu la classe pendant le Davos. L'Europe a renvoyé Donald Trump au 22. Poum, poum! Fini les provocations de papy droit de douane. Le président a sorti les lunettes, les Santiago, bandé les muscles, on a montré qu'on en avait marre. Et Donald Trump s'est fait dessus. Voilà. Bon, comme un peu tous les jours, mais là c'était grâce à nous. Et alors c'est pas fini la diplomatie des testicules d'acier. Je lisais un article hier intitulé... C'est vrai, hein, c'est un vrai article. Le ministre du Commerce, Serge Papin, veut casser la gueule aux Chinois. Authentique. Ouais. Il en a marre de Chine, il va aller voir Xi Jinping, personnellement, il va lui
claquer. C'est le titre de l'article.
C'est le titre de l'article, ouais. Il a vraiment déclaré ça, il va aller claquer un méga coup de boule à Xi Jinping, poum, dans sa face de vieux crabe communiste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça la diplomatie française maintenant. On se laisse plus marcher sur les pieds, on vient de casser la gueule. Tiens, on va l'interroger tout à l'heure, Jean Testostérone, sur le président américain qui a inauguré hier son fameux Conseil de la paix. Ouais. Un conseil de la paix auquel se sont déjà joints Viktor Orban, Javier Milei, Benjamin Netanyahu et ben Jean Rambo. Ils vont répondre sur notre participation. Il va dire on s'en fout de faire partie de cette mafia. Je sais qu'ils attendent encore les réponses de Vladimir Poutine, Dark Vador, Nordal Le Landais, du chauffeur de Lady Di, du pangolin qui a démarré le Covid et du styliste de Florent Pagny. Et ben nous, on va monter notre bande aussi, les gentils Friedrich Merz, Volodymyr Zelensky, Keir Starmer. On est organisé. Et vous savez,
en bande organisée, personne ne peut nous canaliser.
Et ouais, on est des racailles. Ça va être super à regarder les débriefs de tout ça, des experts de plateau, tout ça, genre Jean-Michel Apathy qui va débarquer. Écoutez, mon cher Mathieu, je voudrais revenir avec vous sur la déclaration de Serge Papin, le ministre du Commerce, qui veut casser la gueule aux Chinois. Est-ce que cette proposition peut s'accorder avec celle du ministre des Affaires européennes, qui propose, je cite, d'aller bifler cette petite souillonne de Vladimir Poutine? Est-ce que le mot du gland de la Maison Blanche, puisque c'est ainsi que le Premier ministre a qualifié Donald Trump, restera sans réaction? Je rappelle que Jean-Noël Barrot a déclaré à propos de Donald Trump: je vais t'arracher les yeux, te les mettre dans le slip, comme ça tu me verras te botter le cul. Eh ben, on verra ce que ça donnera. En tout cas, on a sorti l'artillerie lourde.
Eh ben, écoutez, Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure.
Christmas.
Pardon, Jean-Noël Barrot à 8h30. Ouais. Vous, quand on veut en podcast, c'est tout à l'heure à 8h20. Et salutations aux stylistes de panique après une balle perdue. Arnaud Demanche, dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et on va revenir sur ces deux enquêtes ouvertes après la mort de deux nourrissons. La question des lèses infantiles, ça vous inquiète, ça vous préoccupe? Vous nous appelez au 3216. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bourreau ou victime, votre enfant a probablement déjà choisi ou subi, et ce dès le plus jeune âge. Une enquête de Santé publique France montre, chiffre à l'appui, la violence qui s'invite dès l'école primaire. À Nice, c'est la piste intrafamiliale qui est privilégiée après l'assassinat par balle d'une jeune femme de 23 ans mercredi en pleine rue devant son bébé. Et puis rien ne va plus chez le créateur d'Assassin's Creed, Ubisoft, en chute libre sur les cours de la bourse après l'annonce de très très mauvais résultat.
Des enfants de plus en plus violents et de plus en plus tôt.
C'est le constat dressé par l'étude publiée hier par Santé publique France, étude menée sur des enfants de 6 à 11 ans qui nous apprend qu'ils sont 1 sur 6 aujourd'hui à être victimes de harcèlement. Et dans le même temps, car il n'y a pas de harcèlement sans harceleur, on découvre que quasiment un enfant sur 5 présente des comportements agressifs, de quoi inquiéter forcément les parents et les enseignants. Louise Salé.
La fille d'Annie en CM1 a souffert l'an dernier de harcèlement. Ses camarades se moquaient de son poids.
C'était du style, si je la mettais à la cantine, faut pas manger, ça sert à rien, t'es déjà grosse, quoi. Ça rentre pas dans les cases, quoi. Donc ça se moque, ça tape. Voilà, elle est très très mal, oui.
Être différent est un facteur déclencheur du harcèlement, d'après l'étude qui révèle que près de la moitié des élèves agressifs présentent au moins un trouble de la santé mentale. Les chercheurs ont aussi remarqué que ces enfants-là utilisent davantage les réseaux sociaux. Gilles Vernet est professeur en CM2. À Paris.
L'expérience que j'ai eue les trois dernières années, c'était TikTok, qui était assez utilisé par ces enfants, malgré le fait qu'ils soient en CM2 et que ce soit interdit. Et des insultes ou des choses sont échangées qui créent beaucoup de tensions.
Pour limiter cette agressivité, l'étude recommande aux parents et enseignants d'apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, à verbaliser leurs souffrances et de travailler avec eux l'empathie, c'est-à-dire comprendre ce que l'autre peut ressentir lorsqu'il est en difficulté.
L'affaire des laits infantiles contaminés prend chaque jour une autre tournure avec désormais deux enquêtes pénales ouvertes sur le décès récent et suspect de deux nourrissons qui ont pour seul point commun d'avoir bu du lait Guigoz, un des laits à l'origine de la campagne de rappel massive menée par Nestlé depuis le début de l'année. Il est 7h33 à Nice, l'enquête se poursuit mais le tireur présumé est toujours introuvable ce matin, plus de 24 heures après cette fusillade ultra violente mercredi soir dans laquelle une jeune femme de 25 ans est morte, de 23 ans est morte sous les yeux de son bébé de 6 mois qui se trouvait à l'arrière de sa voiture. Et on en sait plus ce matin sur ce suspect dans l'affaire qui ne serait autre que l'ex-beau-père de la victime, Pierre Bazin.
Oui, il s'agit d'un homme de 45 ans et qui, avant les faits, était en couple avec la mère du compagnon de la victime. Jusque-là, il était inconnu des services de la justice, hormis pour une condamnation pour conduite sans permis. Mais il y a 5 jours, il est interpellé pour violence conjugale et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'approcher son ex-compagne. Selon les enquêteurs, c'est dans ce contexte que l'homme aurait emprunté un scooter et abattu son ex-belle-fille. Né au Portugal et décrit par le parquet de Nice comme inséré dans la société, l'homme était jusque-là employé par la ville de Nice au service des sports et exercé dans une école, un bâtiment fouillé le soir du drame par les policiers, puisque c'est également dans ces murs qu'il résidait.
3,99 €, c'est le prix ce matin de l'action Ubisoft, le géant français du jeu vidéo qui a fortement chuté en bourse hier, moins 40%. Elle en valait un peu plus de 87 € il y a 5 ans. Et cette chute, c'est la conséquence d'une fuite en avant des derniers investisseurs qui croyaient en l'entreprise après des résultats cataclysmiques. On parle tout de même d'€1 milliard de pertes anticipées cette année. Et forcément, les 17 000 salariés du groupe sont très inquiets, Victor Joannin.
Oui, cette dégringolade en bourse sanctionne l'annonce par la direction d'Ubisoft d'un plan d'austérité drastique avec des mesures de réduction des coûts, l'annulation de 6 jeux vidéo, dont un nouvel opus de la saga Prince of Persia, très attendu, ainsi que le report de 7 autres projets. Des perspectives qui s'assombrissent alors que la situation n'est déjà pas brillante. On vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, témoigne un salarié. Les ventes ont été décevantes l'année dernière, notamment celles des titres phares comme Assassin's Creed ou Star Wars Outlaw. Et le climat social s'est tendu avec la fermeture de studios en Suède et aux États-Unis et la disparition du télétravail en France. Deux syndicats français ont appelé à débrayer hier et menacent d'une grève touchant les sites d'Ubisoft partout dans le monde dans les prochaines semaines.
Et on y revient avec Emmanuel Le Chypre pour la chronique Écho juste après le journal de 8h. Un fleuron français dans le mal, comme on dit, Ubisoft, on en parle ce matin.
7h35, opération rachat pour le PSG après sa défaite en Ligue des Champions cette semaine. Les Parisiens ont l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 ce soir en cas de victoire face à Auxerre. Et ils sont bien déterminés à se rassurer, Arthur Perrault.
Oui, c'est un Luis Enrique le visage fermé et très offensif qui s'est présenté hier face aux médias. L'entraîneur parisien veut dédramatiser.
Il n'y a pas de doute. Tout le monde, tous ensemble, les clubs, notre supporters, l'équipe, les joueurs, la direction sportive, le président, ensemble avec notre objectif. Et ce sera joli parce que ce que j'ai vu dans les matchs en Champions League, je pense qu'on est dans un très bon moment.
Mais Paris a de quoi inquiéter. Une élimination en 16e de finale de Coupe de France, une défaite mardi dernier à Lisbonne, en Ligue des Champions avec un manque de réalisme criant. Là encore, le technicien espagnol n'est pas inquiet.
C'est très facile de répondre à ça. Tu peux voir le nombre de buts que nous avons marqués cette saison. 4 buts de plus que l'année dernière. Si ce n'est pas suffisant...
Pour définitivement rassurer, le PSG va devoir en l'espace de 6 jours s'imposer contre Auxerre en Ligue 1 et le club anglais de Newcastle en Coupe d'Europe.
Auxerre PSG, coup d'envoi à 20h, horaire inhabituel après un accord entre les deux clubs pour permettre aux Parisiens de se reposer un peu plus. Eh ben oui, avant leur match de Ligue des Champions mercredi.
C'est mignon.
Contre Newcastle, c'est mignon, oui, si vous voulez.
C'est bien pour les enfants.
En Ligue Europa, pas de repos pour Lyon qui poursuit son beau parcours et qui se hisse directement en 8e de finale après sa victoire 1-0 hier face aux Young Boys de Berne. En revanche, Lille devra batailler jusqu'à la dernière journée pour valider sa qualification pour les barrages après sa défaite de 2-1 face aux Espagnols du Celta Vigo. De son côté, Nice a mis fin à sa triste série de 18 matchs européens sans succès.
Bravo. Alors les Parisiens au dodo assez tôt, oui. Et le quintet c'est à 20h15 à l'hippodrome de Deauville.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui c'est l'As Celestial et l'outsider c'est le numéro 9 Star of the Night. On reste dans le milieu de la nuit.
Ouais.
pour que les joueurs aillent
se coucher. C'est important de dormir.
On leur souhaite un bon repos.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Très bon réveil à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Il est 7h37.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Gigoz, Nidal, Pico, trois marques de lait infantile concernées par des rappels massifs. Deux enquêtes ouvertes après la mort de deux nourrissons ces dernières semaines. Sommes-nous face à un nouveau scandale sanitaire? Bonjour Ingrid Kragl.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'information chez Foodwatch. Vous dénoncez le manque de transparence des industriels et vous annoncez porter plainte contre X. Vous nous expliquez tout dans une minute sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous, il est 7h41, vous écoutez RMC. Après le décès de deux nourrissons, des laits infantiles de marque Gigoz, Nidal et Pico rappelés. Des enquêtes sont ouvertes pour savoir si ces décès sont liés à une contamination et l'ONG Foodwatch annonce porter plainte contre X. Bonjour Ingrid Kragl.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'information chez Foodwatch. Les enquêtes sont en cours, les rappels de produits aussi, mais vous parlez déjà d'un scandale sanitaire international. Des millions de nourrissons sont concernés dans le monde et les rappels concernent désormais une soixantaine de pays.
Oui.
Scandale sanitaire international.
Mais oui, en fait, il y avait une poignée de pays concernés par des rappels déjà depuis décembre. On sait qu'à Nestlé, ils ont été avertis par leurs fournisseurs chinois dès décembre. Mais certains rappels ont été opérés en catimini. Et ce n'est que le 5 janvier que massivement, dans plus de 60 pays, les boîtes de lait ont été rappelées, qui suscitent évidemment une inquiétude légitime chez les parents.
Et on va les entendre d'ailleurs, Ingrid Kragl, oui. Puisque Maxime est en ligne avec nous, on va le prendre dans un instant, mais je voudrais juste rappeler et préciser, c'est important, que pour l'heure, aucun lien n'est établi formellement entre le lait et la mort de ces nourrissons. On est capable d'enquêter, de faire un lien.
Alors, écoutez, là, on peut quand même s'interroger sur le sens des responsabilités, à la fois des multinationales, on est quand même face à des géants, Nestlé et Lactalis, on va y venir, sont des multinationales qui doivent maîtriser la sécurité sanitaire. Or, on a quand même l'impression aujourd'hui qu'elles n'ont rien vu venir et c'est assez inacceptable. Il faut savoir que la loi est du côté des parents, des consommateurs. Les industriels, ils sont censés contrôler, j'ai envie de dire, comme le lait sur le feu, scrupuleusement, particulièrement pour les bébés, leurs produits. Ils ont obligation de ne pas mettre sur le marché des produits qui exposent les consommateurs à un danger. Et là, on se rend compte avec les rappels, surtout quand on regarde le détail, que les produits Lactalis, en vrai, ils sont vendus en pharmacie, en supermarché depuis des mois, au moins depuis mai en France. Et dans le cas de Lactalis, ça remonte même à janvier 2025. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, nous dire qu'ils veillent à la sécurité sanitaire des consommateurs, là, on a quand même l'impression qu'ils ont traité ce sujet avec nonchalance et qu'ils n'ont pas surveillé en réalité la composition de leurs produits.
Maxime est en ligne avec nous, je vous le disais, depuis le Finistère, jeune papa, si j'ose dire, artisan menuisier. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous avez appelé, vous donnez du gigoz à votre petite fille.
Exactement.
Mais vous n'êtes pas dans les lots concernés, Maxime.
On n'est pas dans le lot, non. Après, c'est plutôt bien fait les rappels parce que via la carte Leclerc, avec lequel on a acheté les lots. Il nous envoie un mail, donc c'est plutôt bien fait. Condoléances aux familles aussi, bien sûr, évidemment. Et c'est plutôt bien fait, mais ça va s'arrêter, quoi.
Ce qu'on disait aussi, et d'ailleurs on le disait à l'instant, c'est que pour n'importe quel jeune parent, c'est une angoisse. Le lait infantile, comme disait Ingrid Kragl, on l'achète parfois en pharmacie. C'est un produit qui doit être ultra sécurisé.
Ouais, après, il est en libre-service dans tous les commerces, En fait, si vous passez pas une carte Leclerc ou si vous regardez pas les lots, parce qu'on a les numéros, mais bon. Bah.
Ingrid Kragl, beaucoup de parents ont tout simplement découvert cette semaine les composants des laits infantiles complétés par une huile produite en Chine qui semble avoir été fournie d'ailleurs à de nombreux industriels ici. On n'a aucune idée qu'il y a de l'huile qui vient de Chine dans ces produits-là.
Et non. Et on se rend compte que non seulement les laits Nestlé et Lactalis vendus en France contiennent ces ingrédients, mais énormément de marques vendues dans le monde entier. Ce qui est sorti des usines françaises, par exemple, l'usine Nestlé, est parti dans 24 pays du monde. Et je parle de plusieurs continents. J'ai envie de dire à Maxime et à tous les parents qui nous écoutent que il faut pas qu'ils se sentent coupables si leur bébé présente des symptômes. Les vrais responsables dans cette histoire, ce sont les multinationales qui ont traité ça avec nonchalance. Et j'ai envie de dire aussi, c'est super que vous ayez regardé les numéros de l'eau grâce aux cartes de fidélité. Et ça, malheureusement, tristement, c'est depuis le précédent Lactalis qui avait vendu du lait à base de salmonelle en 2017. On s'en souvient, hein, affaire dans laquelle Foodwatch a porté plainte aussi. Mais malheureusement, on n'est pas certain aujourd'hui que la traçabilité est faite complètement. On n'est pas certain d'avoir tout.
Ingrid, ce que vous dénoncez, pour le dire très clairement, c'est un sujet de transparence. Vous dites aujourd'hui, on a besoin d'y voir clair et c'est pas le cas.
Et non, en fait, on voit bien que de jour en jour, on accède à des nouvelles informations. Il y a deux jours, on ne savait pas, par exemple, que les laits Lactalis étaient concernés. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on reçoit les informations qu'on goûte et on n'est pas du tout certain que Nestlé et Lactalis sont transparents. Au contraire, en fait, ils donnent aucune information. Les autorités, c'est la même chose. J'ai vu le communiqué officiel du ministère de l'Agriculture qui dit « nous sommes mobilisés ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eux aussi ont une responsabilité de vérifier que les multinationales font le job.
Alors, d'un mot, Ingrid Kragle, d'un mot pour les parents comme Maxime, là. Si on est concerné concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ces boîtes de lait? On les garde, on les renvoie,
on les envoie.
On les garde. Parce que je voyais que Nestlé Lactalis demande aux familles de jeter le produit après l'avoir pris en photo.
Non. Mais non, surtout pas, en fait.
Vous avez vu cette demande-là?
C'est trop commode de détruire les preuves. En fait, n'hésitez pas à contacter Foodwatch. Il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que les lois sont de votre côté, chers parents, en fait. Ils sont pas censés traiter ça avec nonchalance. On suit l'affaire chez Foodwatch depuis un mois et demi. On avait déjà alerté les autorités européennes au début du scandale parce que Foodwatch est présent dans plein de pays. Donc, on a vu l'affaire monter. Et on a l'habitude, malheureusement, de défendre des parents. On l'a fait sur les Kinder. On l'a fait sur les pizzas Buitoni. Je rappelle que c'était déjà Nestlé. On l'a fait sur la salmonelle dans le lait en poudre pour bébé Lactalis, encore Lactalis. Donc on a les outils pour vous défendre. Oui.
Ingrid Kragle, le message est passé. Merci beaucoup. Vous êtes directrice de l'information chez Foodwatch. Je rappelle que bonne journée à vous. Vous réclamez la transparence des industriels, qu'une plainte contre X sera déposée. C'est pour ce qui ressemble à un scandale international, si je reprends vos mots. Et merci à Maxime, jeune papa du Finistère aussi, de nous avoir appelé ce matin. Il est 7h47. Et dans un instant, le débat RMC, voix de droite, voix de gauche, l'intervention au forum de Davos, le bras de fer avec Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. Emmanuel Macron a-t-il réussi sa semaine? Cécile Duflot va nous rejoindre dans une seconde, la voix de gauche et la voix de droite. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
On y revient dans un tout petit instant. Cécile arrive en courant. Prenez votre temps, Cécile. On arrive dans quelques secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h49 sur RMC et c'est l'heure du bonus. Victor Pourchet, vous nous parlez d'un retour inattendu 20 ans après.
Ouais, pas un groupe, pas un chanteur, mais une danse.
Oui, je suis sûr que ça vous rappelle des souvenirs. Mathieu, la tectonique refait surface sur TikTok avec des milliers de vidéos publiées sous le hashtag TikTok.
On se rafraîchit la mémoire entre 2005 et 2007 quand vous étiez un tectonique killer. C'est que vous aviez la coupe iroquoise, les vêtements à damier qui vont bien avec tout de même quelques pointes de fluo. Et puis vous dansiez surtout en moulinant des bras et avec des mouvements saccadés. Alors, pour mieux danser cette danse, les tutos se comptent par centaines désormais sur le réseau social. Grande question, est-ce que c'est le retour de la plus éphémère des tendances? Allez, peut-être pour un temps, et puis surtout, courage aux nouveaux parents qui n'avaient pas connu ça.
RMC, Apolline Matin, le débat.
7h50, le débat, voix de droite, voix de gauche, c'est avec vous Charles Consigny, à la droite de votre écran, pour ceux qui nous regardent sur RMC Story. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et avec vous Cécile Duflot, la voix de gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors on l'a vu au Forum économique de Davos, tentant de reprendre le leadership au sein de l'Union Européenne face à Donald Trump. Emmanuel Macron était très présent sur la scène internationale ces derniers jours. Le président français a-t-il réussi sa semaine? D'abord, pour le dire d'un mot, l'image de la semaine quand même, c'est Emmanuel Macron avec ses lunettes de soleil. On en parle avec Arthur Chevalier. Charles, je vous ai même vu porter les mêmes lunettes sur BFM TV cette semaine.
Alors, c'était pas exactement les mêmes, malheureusement. C'était un modèle ressemblant.
Elles n'étaient pas faites dans le Jura, les vôtres.
Non, elles étaient faites aux États-Unis.
Vous avez aimé cette image, hein, je crois.
Non, mais écoutez, cette fin de mandat, roue libre, OSS 117, alerte à Davos, moi, je trouve ça très sympathique. Et je pense par ailleurs que, au-delà de ce petit artifice de style qui laisse tout le monde en état de sidération, et que Trump a d'ailleurs assez bien résumé quand il a pris la parole le lendemain, je pense que sur le fond, Emmanuel Macron a plutôt réussi à sonner la mobilisation des Européens. Alors c'est sûr, ce serait mieux si il laissait pas un pays dans un état lamentable après deux présidences et qu'on n'était pas durablement affaibli. Mais je pense que il a sonné le clairon, si vous voulez, d'une manière très française. Je lui trouve un certain panache français dans cet épisode.
Cécile, au-delà de l'image, sauf si vous voulez y revenir, mais sur le fond, semaine de bras de fer, semaine européenne.
Oui, alors c'est quand même la fin de la panoplie, parce que moi j'essaye de regarder sur l'ensemble de la séquence. Il a déjà porté la combinaison d'aviateur, il a porté le blouson d'aviateur, maintenant il met les lunettes. C'est un peu sa faiblesse quand même, le petit côté kéké où il aime être au centre du jeu pour des raisons un peu anecdotiques.
Il ne met pas les soirées déguisées.
Et sur la question diplomatique, effectivement, je pense que sur le Groenland, l'Europe a, vaille que vaille, montré quand même un tout petit peu de hauteur de vue et un peu de fermeté. Mais enfin, cette position, la sienne, vient quelques semaines après son fameux tweet sur le Venezuela qui a fait honte à la diplomatie française. Donc, on est quand même dans une situation où c'est ce qu'on retiendra, je pense, d'Emmanuel Macron, quelques fulgurances dans un océan qui a mis la France dans une situation très difficile. Dans notre pays, Charles l'a dit, mais aussi au niveau international. On a quand même beaucoup, beaucoup perdu en crédibilité. Je pense à l'Afrique, je pense aussi à notre position en Europe et vis-à-vis de l'Ukraine.
Cette semaine où finalement l'Europe a montré les muscles, ça cache une perte en crédibilité, Charles ?
En fait, c'est pas tant une perte de crédibilité. D'abord, moi, sur le Venezuela, je n'ai pas trouvé que son tweet était ridicule. Au contraire, je pense que c'est ceux qui défendent Maduro, quoi qu'il arrive, qui sont ridicules dans cette histoire. Mais je pense que notre problème, il vient surtout de la perte de puissance de la France. Et pourquoi la France est moins puissante qu'avant ? Parce qu'elle est enténébrée dans le socialisme depuis environ 40 ans. C'est ça qui fait que la France n'existe plus sur la scène internationale. Pourquoi est-ce qu'elle a été chassée d'Afrique de l'Ouest notamment, et d'ailleurs en Afrique, parce que elle est minée par une espèce de wokisme et de discours décolonial, etc., qui fait qu'elle n'ose plus bouger un orteil dans ce qui était autrefois ses zones d'influence. Il faut accepter aussi de voir que, même si ce serait confortable, tous les problèmes du monde ne viennent pas d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il fait ce qu'il peut, même si... Là, ce que je lui reprocherais, c'est qu'il ne s'est pas attaqué aux causes qui font que la France est moins puissante qu'avant. Or, c'était, à mon avis, le mandat que les Français lui ont donné. Je pense que les Français ont voté pour ce jeune banquier à l'image prometteuse parce qu'ils se disaient que ça les remettrait au travail et que ça les remettrait dans la course internationale. Et finalement, il a été un président dramatiquement dépensier et très peu réformateur.
Bah, alors moi je trouve qu'on pourrait avoir un débat intéressant, mais Charles, quand on n'est pas d'accord et que la phrase c'est wokisme, socialisme et normalement fonctionnaire de la ville de Paris, c'est le triptyque de Charles Consigny.
Ils sont pour rien pour l'instant dans la
c'est
situation
bizarre.
En Afrique.
D'habitude c'est un peu un marronnier du vendredi matin.
Je ne leur fais pas le grief de la perte de notre influence étrangère.
On progresse, au bout des semaines on progresse. Non, je pense que ce qui est plus problématique, c'est d'ailleurs si on regarde la racine de la question groenlandaise, c'est une lubie d'ailleurs rentable, hein, d'un milliardaire américain, Ronald Lauder, qui a soufflé cette idée à l'oreille de Trump, dont la vision d'ailleurs diplomatique internationale est totalement basée sur les intérêts, sur des intérêts privés, les siens et ceux de ses amis. Et donc c'est intéressant parce que ça se passe à Davos qui est vraiment le centre du cœur du monde de ceux qui créent le problème, c'est-à-dire cette milliardocratie qui essaye de mettre la politique au service de ses intérêts. Et c'est plus cette question-là, Charles, qui serait intéressant de poser. C'est justement de se dire que quand les relations entre les pays sont basées sur des relations d'intérêt individuel, parce que qui est des relations diplomatiques avec des intérêts de pays à pays, y compris des intérêts économiques, c'est l'histoire du monde. Mais là, on est sur des intérêts individuels, de fortune ou de caprice individuel, ben, on est fragilisé. Et c'est ce qui fait que la situation est très difficile. Et donc la réponse, elle peut être en partie française, mais elle doit être européenne. Il doit y avoir de la cohésion entre alliés européens, parce que l'Europe, ça pèse. C'est 30% hein, du chiffre d'affaires des GAFAM. Donc si l'Europe décide de relever un peu la tête, on peut avoir des relations diplomatiques beaucoup plus normales et basées sur les intérêts de nos populations et pas sur les intérêts de quelques milliardaires.
Charles ?
Non, c'est intéressant ce qui est dit parce que je suis d'accord avec le fait que l'Europe doit relever la tête, etc. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que tous ces gens qui méprisaient Trump, qui expliquaient que c'était un clown, un débile, etc. Je veux dire, n'importe quel journaliste subventionné en France pense
on
que...
On avait oublié celle-là.
Bon, bah, oui, je l'ai mis aussi dans la liste. Pense qu'il est supérieur intellectuellement à Donald Trump. N'importe quel plumitif de Libération pense qu'il est deux fois plus intelligent que Donald Trump. Et pourtant, quand Trump nous impose des négociations qui sont quand même extrêmement basiques, c'est-à-dire il vise la Lune pour avoir un peu moins, il menace, etc. Et finalement, en fait, on s'accorde sur un truc.
Donc il a un peu gagné quand même, Trump.
Mais bien sûr, à la fin, il a ce qu'il voulait sur le Groenland, etc. Et à chaque fois, on est complètement tétanisé et on se laisse faire. Ça, c'est une faiblesse que je trouve coupable. Mais la question de la diplomatie européenne, c'est pour ça que je trouve que Macron a plutôt lancé un mouvement. Elle est très compliquée parce qu'on est très nombreux en Europe et qu'on n'est pas d'accord. Et que les Allemands nous lâchent à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important. Les Allemands préfèrent leurs alliances bilatérale au lieu de l'Europe. Le problème, c'est l'état d'esprit des Allemands en Europe.
Merci beaucoup Charles Consigny, Cécile Duflot. Le débat voix de droite, voix de gauche sur RMC ce matin. Il est 7h57. Vous restez bien avec nous à suivre la météo et le journal. Tiens, à la une du journal de 8h, un Français sur 10 qui a consommé au moins une fois de la cocaïne. Chiffre record. La météo, le temps est agité. Puis juste après, le journal de l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre, avec un fleuron français dans le dur.
C'était un fleuron.
Ouais, c'était.
40% de baisse hier à la Bourse de Paris. Une société dans la tourmente pour son 40e anniversaire.
L'éditeur de jeux Ubisoft. 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.